Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, c'est l'heure de zoomer et de décrypter toutes les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Ce soir, depuis leur salon, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis Rome, ce soir, notre correspondante en Italie, Blandine Hugonnet.
Bonsoir à tous les grandes voix, bonsoir Blandine, bonsoir. Depuis Rome.
Bonsoir à tous.
Bienvenue, cette chaleur dans vos voix, ça fait du bien chaque soir. Alors je vais commencer avec Mickaël Darmon, c'est pas tout à fait la même température que chez vous à Rome, encore que je crois qu'il fait pas très beau en ce moment, mais la Bretagne c'est bien aussi, ça nous gagne. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
À tel point. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, parfois. À tel point que.
On s'est pardonné.
C'est gentil. C'est Emmanuel Macron qui a fait escale là-bas pour à la rencontre de nos agriculteurs, maraîchers, distributeurs aujourd'hui même. Il l'a dit, hein. Hommage à ceux qui permettent de nourrir le pays, cette chaîne qui a tenu. Et il fallait évidemment les saluer. C'était important pour le président Macron avec évidemment toujours double lecture, hein, double message.
Et oui, bien sûr, on a bien compris qu'effectivement, il fallait rendre hommage donc à ceux qui permettent au pays de fonctionner et d'une manière plus générale, au-delà de ces personnes, toutes les professions qu'on appelle depuis longtemps les invisibles, les sans grade, qui au fond aujourd'hui constituent toute l'arrière logistique sans laquelle on ne gagne aucune guerre sur aucun terrain. Donc évidemment, il y avait cette démarche, mais effectivement, il y a, comme vous dites, aussi une intention politique. Il y a un besoin de recréer un lien avec les Français, et en particulier avec ces classes populaires avec lesquelles Macron a toujours eu un dialogue très difficile, et voire même beaucoup d'incompréhension depuis le début de son mandat. On se souvient toutes les sorties et les réflexions qui ont à chaque fois provoqué des polémiques. Donc c'est le moment pour lui, parce qu'il est aussi très soucieux, on le sait, des secousses sociales fortes qui peuvent arriver avec la crise économique au moment, au fur et à mesure que le déconfinement va arriver, qu'il a voulu aussi faire cette visite, et avec
sans ses ministres.
D'autres petits, sans ses ministres, pour montrer qu'effectivement c'est lui qui est en volonté de créer le lien direct, parce que il doit aussi participer à cette réinvention qu'il a lui-même donc décrété à la télévision. Nous souvenez-vous, hein, il faut tous se réinventer, moi le premier. Donc il y a cette tentative qui commence aujourd'hui et qui va se poursuivre avec d'autres consultations, mais là il y avait ce message bien évidemment à ces classes populaires, et également avec cette chaîne de magasins donc Super U, qui n'est pas choisi au hasard. Je peux vous dire qu'en Bretagne ça grogne, hein, quand même, hein, parce que effectivement du côté de chez Édouard Leclerc on n'accepte pas vraiment ça, en tout cas on n'apprécie pas vraiment. Mais Super U est la chaîne de grande distribution qui a participé à l'élaboration de la loi Egalim, qui a reconstruit le prix des agriculteurs, le prix producteur, qui s'est beaucoup engagé dans cette démarche. Et c'était aussi une manière, en sous-main, d'envoyer ce signal pour dire, voilà, nous donnons également, nous tenons à rendre hommage aussi à la grande distribution responsable. Et là aussi, évidemment, c'est de la politique.
Dites-moi une chose, Mickaël Darmon, je vais revenir dans un instant. Peut-être que on se parlera après de cette visioconférence avec des représentants de la restauration et de l'hébergement touristique dans la foulée, parce que évidemment c'est en lien. Et je crois que c'est pour demain, avec peut-être demain ou vendredi, vous allez me le dire dans un petit instant. D'ailleurs, tiens, on va commencer à en parler avec vous, Emmanuel Duteil, parce que c'est vrai qu'on entend tourner cette date du 15 juin. On en parlait à l'instant avec Thierry Marx, le chef étoilé. Peut-être, pas de confirmation, pas d'information, peut-être une réouverture des restaurants le 15 juin. Alors, sur le papier, ça peut rassurer, mais dans le concret, ça pose beaucoup, beaucoup de questions.
Oui, effectivement. Pourquoi on parle déjà de cette date ? Parce que aujourd'hui, du côté de l'Élysée, on a envie qu'il y ait vraiment une trajectoire claire pour cette profession qui est par ailleurs le symbole de la France. Quand vous parlez à l'étranger avec des touristes, bien évidemment, pour eux, c'est les restaurants, c'est l'ambiance, la façon dont on peut vivre en France. Donc c'est en cela aussi où c'est très important. Il y a ce point. Il y a le deuxième point, que c'est bien évidemment une activité économique extrêmement importante pour le pays. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vendredi, il y a une grosse réunion autour des Emmanuel Macron, elle est bien vendredi. Elle aurait dû avoir lieu demain matin, mais pour des raisons d'agenda, elle a été décalée à vendredi. Donc, grosse réunion avec les différents acteurs des restaurants, du tourisme, etc., etc., pour réfléchir à quoi ? Effectivement, pour réfléchir à une date. Et l'hypothèse de travail, c'est le 15 juin, c'est un lundi, mais c'est une hypothèse de travail, parce que il y a une question à résoudre avant ça. Finalement, de tous les interlocuteurs qu'on a pu avoir à Europe 1, ils nous disent la date, c'est peut-être le point le plus simple sur lequel se mettre d'accord. Mais le plus compliqué, c'est de savoir comment on rouvre vraiment. Oui. Vous faites comment quand vous avez un bistrot de quartier dans une ville et que vos tables sont complètement collées aujourd'hui les unes aux autres? Vous faites comment pour respecter? Alors on pourrait se dire, bah, c'est facile, on se met à 1m50 et on supprime la moitié des tables. Ouais, sauf que si vous supprimez la moitié des tables, votre modèle économique ne tient plus.
C'est ça.
Et donc la grande crainte aujourd'hui du côté de Bercy, c'est d'aller trop vite, d'imposer des normes sanitaires beaucoup trop drastiques et du coup d'emmener tous ces restaurants, tous ces hôtels, tous ces lieux comme les bars, de les emmener tout simplement à la faillite parce que ça ne pourra pas tenir. Donc c'est ça le gros problème. Et c'est là-dessus que véritablement il faut travailler et donc il faut trouver une réponse sanitaire qui puisse correspondre correspondre à une réalité économique.
Évidemment. Alors, vous avez peut-être entendu Thierry Marx qui proposait d'ouvrir avec des horaires échelonnés, des journées plus longues.
Mais c'est beaucoup plus simple pour Thierry Marx. Le problème, c'est que c'est pas pour Thierry Marx. C'est-à-dire que quand vous êtes un double étoilé, c'est facile de mettre les gens à 1m50. Ils y sont déjà pour ceux qui ont eu la chance.
Il parlait vraiment bistrot, hein. Et aux brasseries. Il s'adressait vraiment aux bistrots, aux brasseries, à tous les restaurants qui peuvent être en
difficulté. Mais le problème, c'est que c'est possible pour les établissements qui sont, qui ont les reins financiers solides. C'est-à-dire que, on est comme ça fait, hein. On a tous à peu près envie d'aller déjeuner aux alentours de 13h et de dîner aux alentours de 20h. Donc, échelonner pour aller dîner à 22h, vous n'aurez peut-être pas grand monde dans certaines villes de France.
On va y revenir, bien sûr. On va y revenir. En tout cas, il y a des pistes, il y a des garanties aussi qui sont attendues et tout le monde, effectivement, est main dans la main pour essayer d'aboutir à quelque chose à cette date du 15 juin et même avant. Ève Roger, présent, c'est pas mal. Alors, nous, on s'est parlé hier de l'hydroxychloroquine à l'étranger. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire le point sur les résultats, qu'on avait des différents tests sur place. Est-ce que ce soir, on peut s'en dire un mot ?
Il y a quelques études, vous savez, il y a des centaines d'études qui ont été lancées, et même rien que sur l'hydroxychloroquine. Et c'est vrai que la revue Prescrire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une revue française, indépendante de tout laboratoire pharmaceutique, qui a fait un peu, qui a une compilation des premiers résultats, qui a eu en Chine, même en France, dans certains de 4 hôpitaux en France, en Île-de-France et à New York. Et en réalité, ces études, elles disent toutes à peu près la même chose. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça pourrait être un peu ennuyeux, mais elles disent toutes, en gros, quand il y a des groupes témoins, ceux qui prennent l'hydroxychloroquine et ceux qui n'en prennent pas, finalement, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence spécifique. Ce n'est pas plus efficace. Les malades ne vont pas forcément mieux, quel que soit leur état. Hein, parce qu'il y a eu des études avec des patients au début, des patients plus graves, des patients qui ont des pneumonies. Mais elles disent aussi toutes la même chose, mais qu'il y a des effets indésirables plus importants dans le groupe qui prend de l'hydroxychloroquine, à tel point que 30% par exemple sur l'étude chinoise pour le groupe avec hydroxychloroquine et 9% pour les autres. Île-de-France, il y a 10% des malades qui ont dû interrompre le traitement de l'hydroxychloroquine parce que justement ils avaient des problèmes, des troubles cardiaques. Donc en fait, ça dit à peu près la même chose. Et je vois que Olivier Véran, qui a été interrogé encore une fois cet après-midi au Sénat, confirme ce que dit la revue Prescrire, puisqu'il dit les dernières publications ne sont pas en faveur de l'utilisation de ce traitement. Alors ça ne veut pas dire que tout est foutu, il n'y a pas de conclusion définitive, mais disons que ça me semblait important, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé, qu'on commence petit à petit à distiller les résultats.
Ouais, donc on n'y est pas encore là-dessus non plus. Hein. Filons à Rome, vous rejoindre Blandine Huguenet, bonsoir. Et on va évidemment parler ce soir des derniers chiffres chez vous, parce que on les a eus il y a quelques minutes, le bilan de cette journée d'Italie qui dépasse encore un seuil, hein, qui dépasse les 25 000 morts, ça y est.
Ouais, ça y est, 25 085 précisément. Alors, le chiffre de morts aujourd'hui est un petit peu plus bas que celui d'hier, une centaine de moins. En revanche, c'est vrai que c'est impressionnant de se dire qu'au bout de deux mois, ça fait deux mois d'épidémie maintenant, on a dépassé, qu'on est toujours à des chiffres. En fait, ça fait une semaine qu'on est autour de 500 morts par jour. Hein. Et le nombre de cas, en revanche, augmente aussi de son côté, avec 3370 de plus en 24 heures. On est à 190 187 327 contaminés en Italie depuis le début de l'épidémie, c'est beaucoup. Et puis le nombre de tests, en revanche, il augmente aussi énormément ces derniers jours. Il a dépassé les 60 000 tests, on a dépassé 60 000 tests par jour. Donc c'est vraiment énorme. Donc c'est vrai que ces chiffres sont énormes aussi. Mais ils sont à mettre en rapport avec ces tests.
En perspective, voilà, en perspective avec ces tests, bien sûr. Alors néanmoins, on parle bien de réouverture aussi chez vous, à partir du 4 mai, donc quelques jours avant la France, oui, c'est ça. On devrait avoir des détails là, fin de semaine. On a déjà quelques idées?
Oui, alors effectivement, on attend un décret qui arrive vendredi ou samedi, mais le président du Conseil s'est exprimé hier devant le CNR et a donné quelques petites pistes pour un plan qui sera bien national et pas régional, parce que c'est vrai qu'ici, les régions avaient tendance à dire on va faire chacune à notre sauce, mais non, ça sera bien un plan homogène de sortie du confinement. Alors, dans les annonces, il y a les masques obligatoires pour sortir de chez soi, la distance à respecter qui pourrait passer à 2 mètres et non pas rester à 1 mètre, les sorties pour les personnes de plus de 70 ans ou pour les personnes fragiles restent serait strictement limitée. Et ces mesures, a dit Giuseppe Conte hier, elles doivent être respectées jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin de trouvé. Donc, c'est pas pour tout de suite. Et il est aussi prévu, par exemple, d'ouvrir les commerces la nuit pour éviter les attroupements et les queues dans ces boutiques. Pour les transports, les discussions sont aussi très animées, parce que à partir du 4 mai, ici, il y a près de 3 millions d'Italiens qui vont retourner au travail et probablement prendre les transports en commun. Alors, l'idée, c'est de prendre la température des usagers à l'entrée du métro ou du bus, et ensuite d'exiger qu'ils soient bien tous assis, un siège sur deux, avec personne debout pour pas prendre de risque. Et puis le retour à l'école, ça sera pas avant septembre, donc pas du tout comme la France qui déconfine vraiment autrement. Le petit soulagement quand même pour les parents et puis pour les sportifs aussi, c'est que les parcs devraient rouvrir à partir du 4 mai avec autorisation de se balader avec son enfant, de faire du sport un peu plus loin que son domicile. C'est quand même pas négligeable, parce que ça fera 2 mois que les Italiens sont confinés.
Exactement, oui, parce que comme en Espagne, les enfants étaient interdits de sortie, me semble-t-il.
Absolument.
Ça fait quand même beaucoup de paradoxes, tout ça. On va... Pardon ? Ah, j'ai entendu. Alors, on va y retourner dans un petit instant. On se retrouve les grandes voix dans 2 minutes. On reviendra évidemment avec vous, notamment Emmanuel Duteil, sur les arrêts de travail qui s'envolent et puis les chiffres de la sécurité sociale tout à l'heure qui donnent le tournis, entre autres. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Elles sont confinées, mais elles sont là, les grandes voix. Avec vous, Nathalie Lévy-Evroger, chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis Rome, ce soir, notre correspondante en Italie, Blandine Hugonnet.
Oui, on va commencer avec vous, Ève Roger, sur cet outil supplémentaire, le tracking, le traçage numérique, cette application, ce traçage par téléphone. La mesure sera votée au Parlement, mais sur le plan logistique, le plan technique, là aussi c'est compliqué.
Ah oui, c'est un peu effrayant, parce que la machinerie, comme ça sur le papier, ça, c'est ultra simple, quoi. C'est-à-dire que vous téléchargez une application, vous êtes malade, et votre téléphone portable, grâce au Bluetooth, retrouve toutes les personnes que vous avez croisées dans les 14 derniers jours, que vous avez croisées de près, c'est-à-dire peut-être à moins d'un mètre et pendant un certain temps. C'est vraiment ultra simple. Alors, il y a à la fois l'obstacle le politique, où on dit attention, vie privée, liberté individuelle, c'est vraiment le scénario à minima qui a été choisi. C'est exactement ce que faisaient les agents des ARS en prenant leur téléphone, en demandant alors vous avez croisé qui, pendant combien de temps, etc. C'est comme si juste l'outil numérique remplace des heures et des heures de coups de fil auquel vous deviez répondre quand vous étiez malade. Donc ça c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et puis il y a un deuxième obstacle qui là paraît encore plus difficile à passer, c'est qu'on a besoin, pour que cette application Stop Covid fonctionne, que Google et Apple lèvent des barrières techniques. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop compliqué, mais c'est juste un petit coup de pouce de Google et Apple, et Emmanuel doit sourire dans sa maison en m'entendant, parce que ça doit pas être rien, un petit coup de pouce de Google et Apple. C'est vrai qu'on se dit ce truc, il est bien conçu et on devrait y arriver, puis en fait on a l'impression que ça s'enlise. Et moi je ne suis pas Mickaël Darmon, mais je ne sais même pas comment se passera le vote le 4 mai prochain.
Voilà, alors le vote, évidemment, Mickaël Darmon, le 4 mai prochain. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur cette histoire de traçage numérique. Il y a l'histoire des libertés individuelles, etc. Le vote, il a été accepté, mais franchement, ça a une chance de passer ou pas ?
Alors, pour bien préciser, hein, le vote qui est le terme qui vient pour en épilogue d'une bataille parlementaire qu'on a vue, qu'on a bien compris entre les deux pôles de la Macronie et une partie également de l'opposition. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi. Donc, ce vote, il est consultatif. Il va être indicatif. C'est-à-dire que il y aura un vote à la fin, mais le gouvernement, s'il veut décider quelque
de
part
toute façon,
de le passer et c'est décidé, ça sera quand même appliqué. Donc il y avait une volonté des députés de dire il faut que l'on vote pour que l'on exprime après avoir entendu quelques porte-paroles ce que l'ensemble de l'Assemblée ressent. Mais il faut bien aussi savoir que c'est un vote indicatif et non pas un vote, je dirais, éliminatoire. Mais pour prolonger ce qu'a dit effectivement et les craintes qu'exprimait Ève à l'instant, c'est vrai que l'enjeu de ce déconfinement qui place l'équipe gouvernementale comme sous pression, comme jamais une équipe gouvernementale n'a été sous pression en même temps. C'est-à-dire que normalement l'actualité fait que vous avez un secteur ou deux en pointe parce qu'il y a une pression sur un sujet de la politique publique. Mais là, ce sont tous les ministres, l'ensemble du gouvernement qui sont sous une pression maximale et de la situation et bien évidemment, comme on peut l'imaginer, d'Emmanuel Macron et qui se heurtent également à ce qu'on appelle, ou en tout cas ce que le président avait déjà désigné comme l'état profond, c'est-à-dire cette espèce de résistance et cette inertie de l'administration qui empêche, qui freine, qui met des barrières et qui aujourd'hui quelque part fait ressurgir une partie de ce mal, de ce mal français. Ça, c'est une chose. Et puis maintenant, effectivement, on voit bien les ministres qui sont chacun en train de définir la façon dont, dans leur secteur, on va déconfiner. Ils sont en train de rendre leur copie, ils le font cet après-midi, vers Jean Castex et vers également Olivier Véran, qui se considère aujourd'hui comme étant le ministre du déconfinement. Vous voyez, donc il y a également une coordination à l'intérieur de la coordination. Tout cela renseigne sur l'immensité de la tâche qui est actuellement à l'œuvre.
Il serait bon, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, Michael, qu'on se parle du discret monsieur déconfinement du président Jean Castex, effectivement, peut-être d'ici la fin de semaine, parce que c'est lui, hein, qui
avec
va
plaisir.
Être l'homme clé, effectivement, de notre
sortie. Le fonctionnaire le plus capé que l'on ait aujourd'hui, et qui est un véritable couteau suisse de la fonction publique.
Exactement. Donc, on y revient volontiers, en tout cas, pour ma pomme, ça peut avoir un intérêt, je suis sûr,
pour d'autres également,
aussi.
Absolument.
Voilà.
Une bonne idée.
Merci à vous. Je passe mes petites demandes comme ça, mes commandes. Direct. Emmanuel Dutheil, on a beaucoup parlé du gros chiffre, du chiffre qui donne le tournis, hein, le chiffre de la sécurité sociale, totalement record depuis 2008, la crise financière. Donc, vous en direz un mot peut-être tout à l'heure, mais on en a beaucoup fait avec Sébastien Krebs dans le journal. Les arrêts de travail aussi. Je voudrais qu'on s'en redise un mot parce que ils s'envolent littéralement. C'est là aussi du jamais vu. Et bah, les embauches, de fait, elle s'effondre.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça paraît pas étonnant, hein, de se dire que c'est pas en ce moment qu'on va embaucher des gens. Eh ben, c'est la réalité. C'est-à-dire que sur le mois de mars, on n'avait jamais vu une dégringolade à ce niveau-là des embauches. Ça montre bien que le marché du travail est complètement à l'arrêt. Alors, par chance, hein, pour le moment, et comme je crois on le disait il y a quelques jours avec vous, Nathalie, par chance, pour le moment, il n'y a pas de licenciement. En tout cas, il n'y a pas de vague massive de licenciement. Après, force est de constater que si on recolle au sujet d'avant sur les restaurants et ce genre de choses, on ne peut pas dire que toutes les mesures d'aide aujourd'hui ne vont pas déboucher quand même à un moment sur des licenciements. Donc c'est vrai que la situation de l'emploi va sûrement être très compliquée dans les mois à venir. Et c'est vrai que l'autre donnée qui était intéressante d'aujourd'hui, c'est les arrêts maladie. On pourrait dire il y a tant de gens de malades, c'est lié au coronavirus. Non, c'est pas lié au coronavirus. En tout cas, c'est une toute petite partie des gens qui se sont mis en arrêt de travail parce qu'ils ont été atteints du coronavirus. Non, c'est parce que il a fallu garder les enfants. Et là aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, mais au début, il était possible de se mettre en arrêt maladie pour pouvoir garder ses enfants à la maison. Ouais. Je vous rappelle que ce dispositif va progressivement s'éteindre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une forte dégressivité si jamais on restait à cela. Et du coup, les gens vont basculer sur du chômage partiel, ce qui va encore venir gonfler les chiffres du chômage partiel. Je vous dis le dernier chiffre du jour. Plus de 10 millions de salariés du secteur privé au chômage partiel. Plus d'un salarié sur deux est aujourd'hui en partie ou totalement au chômage partiel.
Ça fait beaucoup de chiffres, effectivement, qui donnent le
tournis.
Ah,
il y en avait trop, désolé.
Véritablement.
J'ai ennuyé tout
non,
le monde.
Non, pas du tout. C'est que, clairement, on est dans quelque chose de tout à fait inédit
et
en termes de chiffres.
Me gronder.
Mais non, on les retient parce qu'ils sont effectivement très marquants, ces chiffres, Emmanuel Dutheil. Dites-moi une chose, et pareil, je passe un peu ma commande en direct. Je me demandais, dans le secteur de la tech, est-ce qu'on n'embauche pas quand même? Parce qu'on a vu, que évidemment Skype et toutes ces méthodes aujourd'hui fonctionnaient très bien, et on a vu que le télétravail c'était aussi la solution. Est-ce qu'on peut se pencher là-dessus peut-être pour demain et se demander s'il n'y a
bien
pas
sûr, bien
secteur,
sûr, sans souci.
Voilà. On est avec Rome ce soir, avec vous, Blandine Hugonnet précisément, et on parlait du traçage chez nous. En France, l'application de traçage avec le vote qui va avoir lieu, même si c'est en quelque sorte un vote en trompe-l'œil, symbolique, chez vous, c'est en test, hein, depuis quelques jours.
Oui, cette semaine, c'est en test. Alors, il y a une centaine de personnes seulement pour l'instant qui ont droit à la version bêta de cette application qui s'appelle Immuni, application de traçage, pour voir s'il y a des bugs, hein, essentiellement, et pour ensuite pouvoir lancer le système, parce que finalement, l'idée du gouvernement, c'est de mettre en place cette application qui a été donc développée par une start-up à Milan, et pour qu'elle soit en fonction sur tout le territoire à la deuxième moitié du mois de mai, donc un peu après le déconfinement. Et l'idée du gouvernement qui fait cette promotion, hein, de cette application, c'est que sans ce traçage, c'est quasiment impossible de penser laisser les Italiens ressortir de chez eux. Sauf que ça a été très mal compris par la population, parce qu'on a compris ça comme une obligation de se soumettre à une application. On n'était même pas sûr qu'effectivement il y a eu ce débat, hein, sur la vie privée respectée, la peur de se faire voler nos données dans nos portables, etc. Sauf que voilà, le gouvernement a voulu évidemment rassurer. Il y a eu des rumeurs, hein, en début de semaine qui disaient que ceux qui n'acceptent pas d'activer le traçage sur leur téléphone ou qui n'ont pas de portable seraient soit interdits de sortir, resteraient confinés, soit que les personnes âgées qui n'ont pas de téléphone du tout auraient des bracelets électroniques. Alors évidemment, tout ça est faux. Le président du Conseil a rassuré hier en disant que la vie privée donc serait bien respectée, que c'est pas une géolocalisation, ouais, des personnes, puisqu'on on définit pas le lieu, mais juste les contacts faits avec d'autres, que tout serait bien anonyme, uniquement sur la base du volontariat, donc ceux qui ne veulent pas sont pas sanctionnés, et c'est aussi le Parlement ici qui aura bien le dernier mot. Pour pouvoir même peut-être faire une loi, prévoir une loi pour éviter toutes les dérives justement et réglementer ce système.
Bon, on voit bien qu'on en est à peu près au même stade. Un dernier mot très court avec vous, Ève Roger. On en a parlé hier avec le président du Conseil qui entoure Emmanuel Macron, scientifique, Delfrécy, le professeur Delfrécy. Le stop and go, parce que oui, confinement aujourd'hui, déconfinement à partir du 11 mai, mais peut-être reconfinement quelques jours, quelques semaines après.
Oui, c'est assez surprenant. C'est Sibeth Ndiaye qui a dit aujourd'hui que ça faisait partie des hypothèses. Et c'est vrai que, en particulier s'il y avait des clusters, cette idée qu'on va se déconfiner. Et puis, si jamais il faudra peut-être se reconfiner. Donc, c'est ce qu'on appelle le stop and go. Et c'est vrai que pour aller très vite, il va falloir qu'on trouve un marqueur qui va dire à quel moment on doit y aller, à quel moment on revient, on rentre. Et ce marqueur, a priori, si jamais ça doit exister, c'est ce qu'on appelle alors ça va être compliqué, le fameux R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un seul malade contamine. Il faut qu'il soit toujours en dessous de 1 pour éviter la seconde vague, et si à un moment il frôle la barre des 1, peut-être qu'on sera obligé de le faire, mais enfin ça, on en parlera un peu plus tard.
Voilà, et c'est parfait parce qu'on est pile dans les temps. Alors merci beaucoup à vous tous, les grandes voix, d'avoir été au rendez-vous encore ce soir. Blandine Hugonnet depuis Rome également, on se retrouve demain, même heure, même endroit.
Oui, à demain.
Parfait, bon. À demain.
Alors je pense que...